Nous allons commencer avec l'intervention de Madame Sylvie Grimham de l'Université de Lorraine, Nancy. Quelques mots d'abord de présentation. Madame Grimham est spécialiste de littérature allemande et autrichienne notamment. On lui doit une étude sur Ingeborg Bachmann, qui était intitulée « Hommes et femmes dans l'œuvre d'Ingeborg Bachmann », publiée aux presses universitaires de Nancy en 2004. Et elle a aussi publié récemment, en 2018, une version légèrement modifiée de son habilitation à diriger des recherches, qui s'intitule « La carte et la pioche », Raoul Schrott, poète entre deux eaux, une étude publiée à Berlin aux éditions Frank und Tim dans la collection Forum Österreich en 2018. Elle s'est intéressée à différents autres aspects de la littérature et de la culture allemande, et on lui doit aussi un volume collectif qu'elle a co-dirigé sur l'Orient dans la culture allemande au XVIIIe et XIXe siècle. Elle va nous parler aujourd'hui de voix de femmes, donc là je pense aussi qu'il y aura des continuités. Modalité et enjeux de l'écriture dans l'œuvre de Marlene Haushofer. Donc vous avez la parole.
Merci. Ça fonctionne ? Oui. Si l'on en juge par ses témoignages dans des lettres ou des interviews, Marlene Haushofer a vécu l'activité littéraire comme une activité consubstantiellement contrariée, chargée de tensions, voire de culpabilité. Tout en insistant sur sa nécessité vitale, elle souligne qu'écrire, c'est surmonter l'indifférence de son environnement ou affronter une adversité parfois tyrannique. Il lui arrive d'avoir recours au registre du combat ou de la lutte pour exprimer ce sentiment qu'écrire, c'est affronter tout ce qui fait face, les attentes des autres, les contraintes matérielles, le manque de temps, d'espace pour écrire, mais aussi bien sa propre paresse. On devine souvent dans ses propos ce sentiment et cette contrainte d'être empêché, entravé, contrarié. Le plaisir de raconter, lui, est relégué dans l'enfance ou associé à la nostalgie d'une vie réconciliée, comme dans cette scène de Die Wand, où la narratrice se met à chanter et à conter de vieilles histoires à sa chatte, qui l'empêche, et c'est révélateur, de poursuivre l'écriture de son Bericht, de son protocole. Ou lorsqu'elle se met, dit-elle, à parler à Bella en lui promettant un veau, un long été chaud, de l'herbe fraîche, une pluie chaude qui chassera les mouches. Ces rares instants correspondent à des moments de bien-être où elle se sent elle-même, dit-elle, je cite, pleine de chaleur et de vie. Raconter des histoires est le fait de conteurs, comme cette figure du grand-père évoquée dans Die Mansarde, qui raconte des histoires le soir sous la lampe de la table familiale, dans une atmosphère évoquant le rétablissement ou l'instauration d'un ordre heureux. Écrire, pour Marlene Haushofer, ce n'est pas raconter une histoire. Elle dit d'ailleurs dans une interview accordée à Elisabeth Pablé qu'elle ne sait pas le faire et qu'elle s'en méfie. L'écriture est une activité ambivalente, donc, vécue comme quelque chose de douloureux, mais aussi de vital, parce que c'est fondamentalement un acte de résistance, de mise à distance et un antidote puissant face à un monde qu'elle décrit tantôt comme un univers pris dans une agitation frénétique, eine gehetzte Gesellschaft, dit-elle dans Die Wand, tantôt comme pétrifiant et pétrifiant. Il est question dans Die Wand de tote Häuser. On pourrait ne voir dans cette manière de vivre l'écriture comme un acte contrarié qu'un lieu commun, sur la condition d'une femme auteure dans les années 50 et 60, écartelée entre sa vocation littéraire et son rôle social de mère ou d'épouse. Cette logique adversative traverse toutefois aussi les œuvres, et je me concentrerai ici pour les besoins de la cause sur Die Mansarde et Die Wand. Ces œuvres mettent en scène des personnages de femmes qui ne vivent pas en paix avec elles-mêmes. Elles sont des figures morcelées, parcellaires et dédoublées, et ce dédoublement est inscrit dans le dispositif même de la narration, et c'est cet aspect-là qui m'intéressera aujourd'hui. Leur rapport au monde et à l'écriture, elles le vivent comme un face-à-face avec ce qui fait obstacle, avec ce qui échappe ou résiste, comme l'obscurité irréductible des choses, l'insuffisance des mots qui oblitèrent parfois la réalité vécue ou qui la fige, mais aussi l'imprononçable qui est une partie de soi-même. C'est donc sous l'angle de ces ressources, défensives comme offensives, que je voudrais aborder quelques aspects parmi les plus saillants de l'activité narrative dans les deux romans, en m'intéressant, plus qu'à l'intrigue proprement dit, au dispositif narratif et à la facture des textes, à la manière dont se construisent et s'élaborent d'un point de vue narratif les voix des femmes qui s'y font entendre. Certains aspects ont déjà retenu l'attention de la critique et il ne peut absolument pas être question pour moi ici d'être exhaustif sur ce point qui est très vaste et touffu. Dans l'ensemble, néanmoins, le sujet du rapport à l'écriture a plutôt été abordé sous l'angle des ressorts psychiques en jeu dans la construction d'une posture d'auteur au féminin. Je pense par exemple au travail de Elke Bruns sur le sujet. Pour ma part, je m'attarderai sur deux points. Le premier, le procédé du dédoublement narratif. Ça va être mon premier point. Je voudrais donc tout d'abord examiner les figures de narratrice et la manière dont elles sont construites. Dans les deux romans, le dédoublement narratif, que je comprends ici comme un dispositif consistant à faire assumer plusieurs discours par un moi féminin anonyme au sein du récit, est un principe organisateur et structurant, même si d'un texte à l'autre, il varie considérablement dans ses modalités de mise en œuvre et ses enjeux. Ce principe ne tient pas seulement à la dimension introspective des textes et à la nature intrinsèquement spéculaire d'une écriture de soi, puisque dans un cas comme dans l'autre, nous avons deux narratrices femmes qui parlent de leur vie présente et de pans de leur vie passée à la première personne. Le dédoublement narratif est d'abord l'expression narrative ici d'une distorsion, voire d'une disjonction entre différents moments de soi-même. Dans Die Wand, une femme se raconte au présent et au passé dans ce qui ressemble à un long monologue ininterrompu qui, par sa forme même, accentue la dimension solipsiste de l'écriture. Elle n'envisage d'ailleurs pas au début du roman d'être lue un jour. Un peu plus tard, elle se prendra à espérer qu'on lise un jour son récit, mais elle formulera cela plutôt comme sur le mode du vœu pieux. Ce long soliloque repose toutefois sur une mise en abîme qui met face à face le jeu de l'énonciation, la narratrice du roman qui parle au présent, et le jeu de l'énoncé évoqué au passé, qui a rédigé sur un calendrier les notes éparses dont se nourrit le roman. On sait que le changement de perspective de la narration entrepris par Marlene Haushofer entre les premières ébauches du roman et sa version définitive, ça a notamment été étudié par Elisabeth Pols-Heinzel, donc le renoncement à un récit narrant à la troisième personne la vie d'une protagoniste prénommée Isa, au profit d'une narratrice anonyme qui se raconte à la première personne, a fortement contribué à donner corps à ce clivage entre le jeu de l'énoncé et le jeu de l'énonciation, et a contribué à le dramatiser. Entre les deux « je », aucune complicité, ni bienveillance ou indulgence, en dépit de l'effet de miroir qui s'établit entre les deux voix. Comme le jeu de l'énoncé, le jeu de l'énonciation aborde l'écriture comme un recours, voire une contre-offensive, après ce qu'elles appellent une catastrophe, à un moment où ni l'une ni l'autre pensent ne plus rien maîtriser, car la vie s'est engouffrée dans leur quotidien, avec tout ce qu'elle charrie d'incompréhensible, de torrentiel et de dévastateur. Le jeu de l'énoncé commence à prendre des notes sur un calendrier après l'apparition du mur. Le jeu de l'énonciation, lui, commence, 2 ans et demi plus tard, à retravailler et à mettre en forme ses premières notes après la catastrophe que représente pour elle la mort de Lux et du jeune taureau. Le fossé qui les sépare n'est pas que temporel. Ce qui prévaut chez la narratrice est la mise à distance, voire la défiance, par rapport à celle qu'elle fut, non seulement dans sa vie antérieure à la catastrophe, dont elle parle comme du temps de sa jeunesse ou de sa première vie, mais aussi dans les premiers temps de sa vie derrière le mur, toujours qualifiée par l'adverbe « damals ». Il est significatif de ce point de vue qu'il lui arrive de parler de son « ancien moi », je cite, à la troisième personne du singulier, comme pour mieux s'en désolidariser. « Wenn ich jetzt an die Frau denke, die ich einmal war, ehe die Wand in mein Leben trat, erkenne ich mich nicht in ihr. Aber auch die Frau, die auf dem Kalender vermerkte, am 10. Mai in Ventur, ist mir sehr fremd geworden. » De cette mise à distance entre deux moments du moi et de ce dédoublement naît un texte qui juxtapose deux états de conscience. Celui du jeu de l'énoncé, décrit par la narratrice comme un être pris depuis l'apparition du mur dans l'expérience mouvante des choses, comme un moi trop encombré de lui-même, englué dans ses intérêts et ses besoins immédiats, accaparé par ses désirs les plus courts et sa survie au jour le jour, et qui agit intuitivement, sans réfléchir, gedankenlos, niant l'évidence. Je donne quelques exemples. « Ich weiß nicht, warum ich das alles tat. Es war wohl eine Instinkthandlung. » Ou bien « Schon damals hätte ich begreifen müssen, aber ich wollte nicht. Aber das wusste ich damals noch nicht. » Le jeu de l'énoncé, donc, est face à lui la narratrice, qui se pose en conscience spectatrice et en observatrice, voire en commentatrice raisonnée de ce qu'elle fut et de ce qu'elle a vécu. Par rapport à ses premiers états du moi, la narratrice du récit juge, évalue, soupèse, compare, essaie de porter un regard dessillé sur les choses. Son registre n'est pas celui de l'empathie, mais du jugement de valeur. Elle condamne par exemple d'un ton définitif son espoir initial d'être secourue. Son discours abonde de conjonctions ou d'adverbes à valeur adversative, qui corrigent, voire suspendent, la valeur de vérité des gestes et des attitudes du jeu de l'énoncé, et qui lui permettent de poser ses assertions présentes comme vraies par rapport à celles du passé. Schon damals hätte ich begreifen müssen, aber ich wollte nicht. Lieber redete ich mir ein, irgendetwas an dem Ding wäre über Nacht kaputt gegangen. Ou bien, aber das wusste ich damals noch nicht. Es war natürlich jedes Mal eine Täuschung. Elle se comprend aussi comme une conscience ordonnatrice, qui place son récit sous le paradigme de l'ordre et de la raison, dans lesquels elle voit non seulement les conditions de l'intelligibilité, mais aussi les garants d'un monde sans désordre et sans vide, où la raison ferait régner l'ordre et où la peur serait interdite de séjour. L'écriture et la mise en forme des notes apparaissent à ce stade comme un moyen de se donner à elle-même la possibilité de comprendre, de se comprendre et de déjouer ses propres résistances ou les ruses de la raison, bien résumé dans cette phrase emblématique « Ich werde mir noch auf alle Schliche kommen ». Elle anticipe ce qui adviendra, elle remonte dans le temps, cherche à établir des rapports de causalité, en quête d'un ordonnancement entre des pans mêlés et indissociables du passé et du présent qui s'entrechoquent. La portée de ce geste de mise à distance reste toutefois foncièrement ambiguë. Cette lucidité qu'elle conquiert sur la peur et les entraves de ce qu'elle appelle le temps de l'esclavage, ce temps d'avant la catastrophe, qu'elle présente comme un temps où elle respectait les consignes et cherchait à ne pas déplaire à son maître, a quelque chose, cette lucidité donc a quelque chose de libérateur, voire d'émancipateur, quand elle en parle comme d'une métamorphose, quand elle dit « Damals im ersten Jahr dachte und fühlte ich noch nicht so. Alles hat sich unmerklich gewandelt. » Ou quand elle voit dans ce changement d'état d'esprit l'implosion d'un système de vie qui était fondé sur l'imposture et les faux-semblants. La mise en forme des notes est liée en cela à l'utopie d'un dire vrai, d'une parole démystificatrice. Ich weiß, wie lächerlich dieser Gedanke war, aber da ich genauso dachte, will ich es nicht verschweigen. Quand elle ne pense plus à ses filles et constate qu'elle ne les regrette plus, elle commente aussi « Wahrscheinlich klingt das sehr grausam. Ich wüsste aber nicht, wem ich heute noch etwas vorlügen sollte. Ich kann mir erlauben, die Wahrheit zu schreiben. Alle, denen zuliebe ich mein Leben lang gelogen habe, sind tot. » Cette mise à distance de soi s'assimile aussi à un reniement quand elle ressemble à la recherche d'un niveau de conscience proche de l'impersonnalité, marqué par l'acceptation du réel tel qu'il se donne à vivre. Ich habe aufgehört, das Leben und den Tod weiterzugeben. Das ist nicht gut und nicht schlecht, es ist einfach. Ou bien, lorsqu'elle ressemble à l'acceptation d'une mort lente, portée par une fatalité intérieure, contre laquelle elle ne veut rien entreprendre et ne pas s'opposer. Il est symptomatique de ce point de vue qu'elle bagatellise le fait d'avoir omis de mettre son nom sur son récit. À l'évidence, elle n'y associe pas d'enjeu identitaire. Il est le signe d'un effacement du moi qui n'existe tout simplement plus, car il n'est plus soumis au regard des autres. La lucidité a quelque chose de mortifère, enfin, quand elle écrit, quand elle traduit aussi, ou quand elle est l'expression d'une conscience coupable, qui n'a pas fait ou ne parvient pas à faire ce qu'elle aimerait ou ce qu'elle devrait faire. Dans Die Mansarde, ce processus de dédoublement narratif se complexifie par rapport à Die Wand. Dans Die Wand, la fracture intérieure du moi se projette déjà elle aussi sur le dehors, dans le mur en l'occurrence. Mais dans Die Mansarde, il y a une superposition de deux types de dissociation de soi, si on peut dire. À la disjonction temporelle entre des moments du moi passé et présent, en l'occurrence entre le jeu sourd qui est l'auteur du journal enchâssé dans le récit et le jeu qui est la narratrice de l'histoire cadre, vient se rajouter une dissociation de la narratrice du récit cadre qui assume elle-même deux types de discours. Celui portant sur sa vie familiale, dans le cadre et la maison, et celui concernant sa vie dans la mansarde. Le roman se structure de ce point de vue selon un procédé de double mise en abîme. Gaston Bachelard et sa poétique de l'espace constituent, je trouve, des guides précieux pour comprendre la valeur symbolique et la signification archétypale de ces espaces. Irmela von der Lühe a par exemple aussi étudié la teneur psychique de cette topographie. En bas, j'y reviens rapidement, en bas dans la maison familiale, le règne du moi, à ras de terre. À ras de terre est une expression de Bachelard. Pris dans les raies de la platitude d'une vie commune, sans surprise, réglée jusqu'à l'ennui. Y règne la conversation sans enjeu et les faux-semblants. Un jeu de rôle où personne n'est ce qu'il paraît être. En haut, la mansarde, qui est le lieu de l'intimité, et à ce titre, là aussi je cite Bachelard, un contre-univers ou un univers du contre. Elle répond à des aspirations inconscientes plus profondes que le simple souci de quiétude et de repli. Plus qu'un refuge ou une retraite, la mansarde marque en effet l'aspiration du moi à une vie cellulaire, où le monde réel, celui de la famille, s'efface. Elle est un espace du renfermement du jeu sur lui-même, un espace d'autonomie fermée, pourrait-on dire, mi-refuge, mi-cachot, dont l'unique fenêtre ouvre d'ailleurs sur un mur, métaphore ici de la séparation, de l'oubli et du refoulement d'une partie de soi. Vivre à l'étage, c'est vivre coincé, dit Bachelard. La maison est décrite comme un espace clos, où peut se déployer l'imaginaire à travers le dessin, on l'a évoqué tout à l'heure, où la narratrice peut habiter les images, mais elle est aussi le lieu où se vivent les grandes terreurs, ou les moments de grande terreur, là je cite le livre, notamment après l'envoi des premiers paquets anonymes. Ces univers radicalement dissimilaires disent la discordance de son être intime. La narratrice, on l'a dit tout à l'heure aussi, s'emploie à circonscrire nettement les deux univers. Et cela se traduit dans une disjonction du discours. D'un côté, l'usage et les convenances du moi d'en bas, un discours à coloration normative, parfois sentencieux, parfois ironique, qui reprend les idées reçues ou répandues, selon un code, en apparence un code très convenu des valeurs, et qui se traduit parfois sur un ton péremptoire ou des jugements sans appel, loin des doutes ou des questionnements qui pourraient venir troubler la stabilité et l'immobilité de la vie dans laquelle elle est littéralement figée. Il y a tout un vocabulaire de l'immobilité qui lui sert à décrire cet état. Un exemple de phrase parmi d'autres, ou de jugement sans appel, si on peut dire, ou définitif, « Und wenn wir alle brav unsere Pflicht tun, wird alles wieder gut werden. » Un discours qui est aussi à teneur descriptive, quand il rencontre par le menu les activités des uns et des autres, sans investissement émotionnel. De l'autre, les méandres d'une pensée tortueuse, toujours en mouvement, les monologues intérieurs, les considérations sur l'existence qui contreviennent à la marche réglée de la vie familiale et qui disent les hantises, tapis en sous-main, reléguées dans la mansarde. Cette dissociation se traduit syntaxiquement dans une technique du contrepoint, ou peut-être plus exactement encore du contre-pied, qui juxtapose des affirmations formulées sur le ton de l'évidence qui se trouvent contredites juste après dans la phrase suivante. Das ist wirklich sehr sonderbar und unverständlich. Aber was ist für mich nicht sonderbar und unverständlich? À cette première disjonction se superpose une seconde cassure entre un moi passé et un moi présent, avec l'arrivée des premiers envois, qui, typographiquement cette fois, marque l'intrusion d'une autre voix, celle d'un moi qui, au sens propre comme au sens figuré, n'a pas voix au chapitre, et dont les lieux de relégation symbolique sont la mansarde et la cave, lieu de l'inconscient et du refoulement. Cette troisième voix introduit une nouvelle trame narrative dans cet univers dissocié et contribue à brouiller les frontières entre les univers singuliers dont elles sont les porteuses. J'y reviendrai plus tard. La narratrice du récit cadre parle toujours par euphémisme de cette période de sa vie. Elle parle à plusieurs reprises de « l'événement », comme d'un moment de sa vie, de l'ordre de l'imprononçable, sur lequel pèse l'interdit. Ce moment de vie est absent du récit cadre en tant que tel. C'est Irmela von der Lühe qui a souligné le fait qu'il est relégué dans un récit enchâssé, que la narratrice du récit cadre ne commande jamais, car cette période est à l'évidence l'angle mort de son existence. Cette technique du contre-pied se retrouve d'ailleurs aussi dans le discours du jeu des carnets enchâssés. Un exemple là aussi, parmi d'autres, « Es gesund, dass ich nicht ins Dorf gehen will. Aber wenn ich nur daran denke, werden meine Hände ganz feucht und kalt. Was könnte denn geschehen? Gar nichts. » Ou la deuxième phrase finalement dénie le premier propos. C'est dans l'organisation structurelle de la narration, dans Die Mansarde, qu'apparaît le plus nettement le clivage du moi et la tension entre des positions psychiques inconciliables. Car dans la réalité de la fiction, je vais le voir dans la deuxième partie, la narratrice est déjà rattrapée par sa vie antérieure et la vie dans la mansarde rattrapée par le passé. J'en arrive au deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la narration elle-même. Narration ambiguë, voire impossible. Cette mise en abîme entre différents niveaux de conscience de la narratrice se double d'ambiguïté, voire de divergence entre, d'une part, les énoncés et les discours, et le monde fictif, d'autre part, qui est construit par la narration. Ces écarts et ces décalages entre ce que les voix narratrices disent ou écrivent et la manière dont leur discours prend forme dans le récit suscitent des doutes quant à la crédibilité de ce qu'elles disent et suscitent des doutes sur la fiabilité de leur récit. Je voudrais, pour illustrer mon propos, revenir rapidement sur le début de Divan que nous avons en tête. Le roman s'ouvre sur la décision de la narratrice d'entreprendre ce qu'elle appelle « ein Bericht », autrement dit un compte-rendu, un protocole qu'elle veut, dit-elle, aussi précis que possible. Le terme « Bericht » témoigne d'une volonté de fournir un récit dépouillé, de coller au plus près des choses et de les rendre dans leur réalité la plus nue. Le dépouillement et la concision de cette première phrase, avec la mention du cadre spatio-temporel, témoignent de la volonté de la narratrice de détacher son récit du régime de la pure fiction, pour l'inscrire dans celui du témoignage et du document, en évacuant la part de subjectivité inhérente à toute narration. Ce récit protocole, la suite du texte l'atteste, doit limiter la propension de la narratrice à se plonger dans ses dédales intérieurs et lui permettre de résister aux pensées et aux doutes en tout genre qui l'assaillent. Ich werde nie meinen Bericht zu Ende bringen, wenn ich mich hinreißen lasse, jeden Gedanken, der mir durch den Kopf geht, niederzuschreiben. Suivre le cours de son imagination, ce serait, pense-t-elle, une marque de vulnérabilité. Fantasie macht den Menschen überempfindlich, verletzbar und ausgeliefert. Elle veut donc adopter le point de vue du témoin détaché. Et elle ponctue nombre de ses observations par l'adverbe « wirklich », qui est censé attester cette volonté d'objectivation. L'ambition de « tout noter »,« alles aufschreiben », associe par ailleurs l'acte d'écrire à l'idée d'un sujet souverain de sa vie et de son discours, et à la conception holiste d'un récit capable d'intégrer des événements multiples et dispersés, et de les rendre intelligibles dans une histoire entière et complète, si possible. Cette volonté de maîtrise est toutefois escamotée dès les deux phrases suivantes, qui viennent désavouer la faisabilité du projet et souligner le fossé entre la réalité rendue par le récit et la réalité extralittéraire. L'altération de son sens du temps, notamment, qui va se manifester progressivement par des décrochages successifs entre le temps narratif et le temps réel, et sa mémoire faillible, ne peuvent que contrarier l'entreprise d'un récit conçu comme retranscription fidèle des événements, et ils introduisent d'emblée le soupçon sur la fiabilité de ce qui sera rapporté. En contradiction flagrante donc avec la première assertion, ces phrases contiennent en germe les blancs, les omissions et les digressions à venir. Au fil de la narration, elle va avoir de plus en plus de mal à se tenir au simple rendu des notes. « Ich werde versuchen, nicht allzu oft von den Kalendernotizen abzuweichen », dit-elle. Elle perdra même l'envie par moment de rendre compte de certains événements, comme l'expédition vers la cabane de chasse, par exemple. Elle ne dispose au demeurant que de notes, je cite, « éparses et maigres », par ailleurs peu lisibles. Après un compte-rendu détaillé des trois premières journées qui suivent l'apparition du mur, rendu avec force détail, selon un ordonnancement chronologique, le temps narratif va s'accélérer et le rapport entre le temps narratif et le temps réel devenir de plus en plus lâche. Dans cette écriture du constat s'immisce en outre d'emblée et de façon presque subreptice un vocabulaire imagé et métaphorique, éminemment polysémique, aux antipodes de ce que l'on peut attendre d'un compte-rendu qui se veut aussi exact que possible. La narratrice annonce ainsi, au début du roman, qu'elle se met à écrire pour ne pas avoir à fixer l'obscurité. Une formule qui doit être lue au sens propre comme au sens figuré. L'obscurité, dont il est question ici, est à la fois une notation réaliste qui renvoie à l'hiver et à l'absence de lumière de la saison qui lui fait peur, mais elle a aussi une grande richesse expressive et dans ce contexte en particulier une forte tonalité émotive car elle est aussi la métaphore d'un univers enténébré, de l'obscurcissement de la raison qu'il s'agit de conjurer et l'expression de la peur de sombrer. De même, la peur est anthropomorphisée, elle est présentée comme un animal qui rampe vers le moi pour l'anéantir. Dès ce moment, le récit protocole, qui se veut au plus près de la réalité factuelle, prend une tournure inattendue, ouvrant l'espace d'un monde dérivé, fantasmagorique, où prévaut ou va prévaloir une forme de visibilité, celle de la figuration métaphorique, plus adéquate, semble-t-il, à formuler les hantises et le traumatisme. Cette entrée en matière du roman peut être rapportée à l'économie d'ensemble de Divant et représente un parfait exemple des retournements qui travaillent ce texte et en informe en profondeur la manière de raconter. La narration se tient en effet entre ces deux extrêmes, entre des écritures et des discours dont les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans une ère cernée par la nécessité de dire pour conjurer la peur d'une part et la difficulté voire l'impossibilité de nommer et de donner un sens d'autre part. D'un côté s'affiche le volontarisme et la fermeté d'une narratrice qui veut témoigner avec une neutralité aussi transparente que possible et rendre compte par le menu et par apposition successive ce qui advient. De l'autre, des questions insidieuses, lancinantes, des doutes qui vont à contre-courant de l'intention initiale. Deux regards cohabitent donc tout au long de la narration. Un regard qui se veut clairvoyant et critique, qui détaille, constate, et de l'autre, un regard cédant au flux des images, aux sensations de la nature, comme au cours de cette fameuse nuit de pleine lune, où elle fait sa première randonnée nocturne. Les lignes du paysage, les couleurs, les matières sont chargées de valeurs expressives, et la narratrice en détaille toutes les nuances, ou comme pendant cette nuit d'orage, où elle compare le bruit de la pluie qui commence à tomber avec le bruit d'une étoffe qu'on déchire. Ou lorsqu'elle rend le sentiment de peur suscité par l'orage en usant d'une comparaison avec un géant qui s'apprêterait à frapper sa maison de poupée avec un marteau en feu. Plus tard, elle dira qu'il ne suffit pas de savoir les choses, ni de les comprendre, mais qu'elles doivent s'incarner, qu'il faut les voir avec son corps pour qu'elles ne paraissent plus insaisissables. Les métaphores, au sens étymologique de « transport », déplace de la sorte le récit protocole vers une autre forme de figuration et de visibilité. Par ce travail de métaphorisation et d'allégorisation, il bascule en somme dans le roman. À l'issue du premier tiers du roman, il n'est de fait plus question de rendre compte le plus fidèlement possible, mais je cite, de redonner vie aux souvenirs et de leur donner corps. La multiplication des plötzlich qui émaillent la narration se lisent eux aussi comme autant d'indices d'une instabilité foncière qui hante le flux apparent de la narration. À tout moment, la réalité quotidienne, vérifiable par la logique et la perception, peut basculer vers des phénomènes sensoriellement insaisissables et inexplicables. Alors que les verbes « comprendre »,« expliquer », Les adverbes de déduction, also, de temporalité, dann, schließlich, suggèrent un monde intelligible, un univers régi par des règles immuables. Les images donnent corps, à l'inverse, à un monde invisible, opaque, qui ne peut être clairement désigné. Le mur est de ce point de vue la plus parfaite illustration. Il est une image que la narratrice utilise, dit-elle, pour désigner cette chose mystérieuse qui résiste à tout effort de compréhension et d'interprétation. Mais ces images et cette fiction, au sens de construction imaginaire, surgissent par nécessité et elles restent toujours marquées par le désaveu. Elles sont perçues toujours comme un péril et la fiction reste un monde coupable. Dans Die Mansarde, c'est l'organisation même du récit qui est contredite par la réalité de la narration. L'architecture de la semaine, qui structure le roman, donne en effet une composition faussement ordinaire au récit. Elle esquisse l'image d'une narratrice se racontant au jour le jour, qui parvient à circonscrire et à agencer d'un point de vue linéaire les éléments de son expérience. Au sein de cette architecture d'ensemble, la narration est scindée clairement entre le point de vue de la narratrice du roman et celui de la narratrice des carnets enchâssés, qui a perdu, qui a vécu pendant 2 ans dans le pavillon de chasse à l'égard de la famille. Le discours licite, celui du récit cadre, est nettement séparé de ce qui en est banni, à savoir l'îlot des souvenirs indicibles. Cette séparation structurelle et les frontières entre le moi passé et le moi présent fait toutefois l'objet d'un brouillage continu entre le passé et le présent de la narration. Comme l'a fait observer Irmela von der Lühe dans son étude du roman, tout ce qui relève des activités ménagères et du tâche du quotidien, du pan de vie de la femme soumise à la dépendance économique et sexuelle, pourrait-on dire, est narré au prétérite. Tandis que le tourbillon désordonné des pensées méandreuses, les monologues intérieurs, les réflexions qui viennent subvertir sa vie rangée sont rendus au présent. L'utilisation du présent leur confère une présence immuable. Il y a donc un écart entre l'architecture d'ensemble du récit et la dynamique de la narration, qui avance pour ainsi dire à plusieurs vitesses. Il y a les agissements de celle qui est prise dans la marche résignée de la vie, qui organise la vie de famille, qui s'occupe, parle et agit comme un automate, poussé par une force qui ne lui appartient pas, et il y a celle qui s'abandonne au méandre d'une pensée tortueuse, incertaine. Le récit de la narratrice du récit cadre avance de ce point de vue dans un double tempo, rendu par le passage du prétérite au présent. Ce double tempo met en scène le flottement du moi entre des dispositions contraires et provoque à tout moment des discordances et des glissements incongrus qui viennent dévier le cours de la narration. Quand la narratrice narre aussi bien au présent ce qui la hante quand elle fait la poussière et les moments qu'elle passe dans la mansarde, atteste de la même façon que la séparation entre ces deux pans de vie n'est pas aussi étanche non plus que le suggère la structuration du roman. Pour finir, je retiendrai que la mise en abîme des voies narratives et les remises en cause qu'elles entraînent pour le statut de la narration elle-même sont des procédés qui, dans les deux romans, paraissent intrinsèquement liés à la difficulté de dire, de se dire. La forme du carnet de notes tient à la fois du journal intime, mais aussi du récit inachevé et lacunaire. Les ressources de l'écriture romanesque qui reconfigurent ces carnets me semblent tenir dans ce contexte au fait qu'elle est non seulement un outil d'expression d'une crise de l'identité féminine, mais aussi un moyen de gestion et de négociation de ce conflit intérieur. Tout se passe en effet comme si le roman permettait, sur le plan fictionnel, de faire coexister, à défaut de mettre en cohérence, différents moments du moi qui se font face. La coexistence même de différentes voies narratives, avec leur univers propre, fait du récit un espace d'expérimentation, où chaque moment du moi, porté par une voix différente, correspond à une façon différente d'être une femme. Ainsi, même si la narration n'a pas pour effet de réconcilier avec soi, et encore moins de faire accéder à une existence pleine et entière, elle ouvre quand même un espace des possibles, dans lequel le moi peut projeter ses discordances. Je vous remercie.